Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Et aujourd'hui, c'est pas Kev Enfu qui est là. Et non! Coudon! Kev, t'as changé de métier? T'es rendu plus grand?
Ou pas? J'ai quelle grandeur, Kev?
J'ai mon ami Luc qui travaille pour une compagnie que je pense que vous allez vraiment apprécier. Tu sais, c'est quand même drôle, Luc, parce qu'on s'est connus au brasseur puis un petit peu avant. Tu brassais en amateur avant. Puis là, il me dit, il vient me voir, puis il me dit, hey, Fitz, j'ai une nouvelle job, mais tu sais, faut pas trop en parler parce que c'est pas encore fait, puis tout, là. Vous me connaissez, là? Luc, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, man, je m'en vais travailler chez Yakima Chief. Là, je suis comme, wow! Fait combien de temps que t'es pour Yakima Chief? Puis avant ça, là, c'est qui était là?
Personne.
Fait que t'es le premier Québécois qui travaille pour eux.
Je suis pas juste le premier Québécois, je suis le seul employé canadien. Il n'y avait aucun employé au Canada avant. Moi, j'ai commencé chez Yakima Chief en janvier 2018, donc ça fait 3 ans. C'est ça, avant, le marché du Canada, c'était pas un marché de seconde zone, mais il était un petit peu délaissé. Puis c'était un gars qui était à Philadelphie qui s'occupait de l'Est du Canada en plus. Puis en plus, ce gars-là, il s'occupait de l'État de New York, du Vermont, du Maine, fait que tu vois, fait que le
tout,
genre...
Toutes des petites brasseries,
toutes
là.
Toutes des petites affaires. Fait que c'était bien dur pour lui de s'occuper en plus du Québec puis tout ça. Puis ils ont comme senti le besoin d'avoir quelqu'un pour le marché de l'Est du Canada. Au début, ils voulaient engager quelqu'un au Vermont pour s'occuper du Québec, mais ils sont venus à la MBQ en novembre 2017.
Fait que ça fait depuis...
c'est là que je les ai rencontrés pour avoir le poste. Okay. Puis en arrivant à la MBQ... à Québec, dans un marché francophone, 80% des brasseurs, 90% des brasseurs arrivaient en avant du kiosque de Yakima Chief, leur parlaient en français, puis eux autres, ils étaient là. T'sais, un gars de Philadelphie, puis un gars de Yakima. D'ailleurs, je dis un gars de Yakima, c'est Ryan Hopkins qui est rendu le CEO de Yakima Chief maintenant.
Ils n'ont pas envoyé n'importe qui.
Non, mais il était directeur des ventes à ce moment-là, directeur des ventes mondiales, mais là, il est rendu CEO. C'est lui qui m'a engagé. Donc, ils se sont rendus compte que le besoin était là pour avoir quelqu'un qui était bilingue. Ça a bien fonctionné. J'ai passé les entrevues, puis j'ai commencé en janvier 2018. Puis je suis toujours le seul employé au Canada.
C'est bon, ça veut dire que tu fais une bonne job, ça, mon Luc?
J'espère, en tout cas. C'est pas payé, ils me font confiance, puis je suis encore là après 3 ans.
C'est quand même bien. Fait que tu brasses toujours autant amateur, j'imagine?
Même pas, j'ai pas eu le temps. Jamais! Jamais, j'ai même... tu le sais, moi, j'ai quand même une brasserie qui est pas pire chez nous.
Oh oui.
Puis j'ai pris un break de quasiment 2 ans et demi sans brasser parce que j'étais toujours sur la route, le temps de m'adapter au voyage. Parce que moi, mon territoire, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'ouest du Canada, mais il est basé dans l'État de Washington.
OK.
Donc, à Bellingham, Washington. Donc, il est pas trop loin, là, il est pas trop loin de Vancouver. Fait qu'il s'occupe de tout ce qui est l'ouest du Canada. Puis moi, je m'occupe du Manitoba à Terre-Neuve.
OK, fait que juste une petite partie du Canada.
Petit
là.
Territoire. Donc, fait que c'est pour ça qu'il fallait que je m'adapte avec les voyages, puis en plus avec les voyages aussi aux États-Unis, puisque je suis quand même appelé à aller en temps normal, quand on n'est pas en pandémie, quand même appelé à aller souvent aux États-Unis, soit pour les récoltes au mois de septembre, soit pour le Craft Beer Conference qui est un peu partout, ou des réunions, des choses comme ça. Fait que je voyageais quand même pas mal. Fait que le brassage amateur, en plus, des fois que je faisais des collabs avec des brasseries.
On a vu une couple de passer.
Fait que mettons, la fin de semaine ou le soir,
quand t'es là.
C'est ça, quand j'étais là, je m'occupais de plus ma famille que je peux te brasser.
Fait que tes enfants t'appellent mon nom, Castor.
Ben, quasiment, ils ont dit c'est qui cet inconnu qui arrive à la maison, le monsieur barbu. Ben oui, je suis votre père. Mais c'est ça, fait que j'ai moins brassé, mais là, je me suis remis dernièrement, là, puis c'est bien le fun.
On reprend la passion.
Oui, ben là, c'est ça, j'ai plus de temps. Puis ben c'est le fun aussi, personnellement, d'essayer des trucs, des nouveaux houblons que c'est pas nécessairement tout le monde a accès et tout. Là, fait que c'est ça qui est le fun.
Pour le monde qui se joint à nous et qui n'a aucune idée c'est qui Yakima Chief, là, ben sortez un petit peu de chez vous, allez lire un peu ses réseaux sociaux. C'est les magnifiques houblons qui sont disponibles pour faire vos magnifiques NEIPA. C'est pas
en
mal
gros.
Ça, hein?
On a des houblons pour tous les usages. On a des houblons pour faire des lagers, on a des houblons pour faire des saisons, mais
corrige-moi si je me trompe, là, mais vos brands... Pas mal de ceux-là qui sont utilisés dans la plupart des NAIPA qui se trouvent en Amérique du Nord.
Oui, ben les plus gros houblons, ben c'est ça. Nous autres, on a une trentaine de sortes de houblons américains. Et on importe aussi des houblons européens puis néo-zélandais. Donc, la plupart des gros brands que vous connaissez, Citra, Mosaic, Simcoe, Talus, Sabro, Equanaut et Patati, c'est nous autres qui les a, puis c'est nous autres qui les créent.
Ouais.
On fait partie de Yakima Chief, on est le deuxième plus gros producteur mondial, on est le premier aux États-Unis. Puis, ce qui nous diffère des autres compagnies de houblon, c'est que nous, c'est vraiment des fermiers qui sont propriétaires de la compagnie. Donc, c'est 15 fermes. Maintenant, 15 fermes, mais au début de Yakima Chief, ça a été créé au fin des années 80. C'était 3 fermes qui sont mises ensemble, qui ont décidé, parce que la plupart des houblons, c'était des houblons high alpha. Donc, c'était des houblons qui étaient achetés pour des propriétés d'amertume. Puis c'était acheté surtout par les grosses brasseries. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des brokers qui arrivaient dans les fermes, qui achetaient les houblons, ils saignaient les fermiers au maximum, ils achetaient ça le moins cher possible. Puis, après ça, ils revendaient les houblons à Anheuser-Busch, puis des grosses brasseries un peu partout en Amérique du Nord.
À Bev.
C'est ça, et voilà. Toutes ces brasseries-là achetaient les houblons, puis c'était le broker qui se gardait une grosse cote. Mais là, ces fermiers-là n'arrivaient plus, puis ils avaient de la misère à garder leur main-d'œuvre aussi. Il y en a plusieurs fermes qui étaient sur, c'était des fermes qui étaient sur le bord de fermer, puis aussi, vu qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, mais c'était tous des équipements qui dataient des années 30, 40, 50, des vieux pickers, des vieilles fermes. Puis ils n'étaient pas capables de rentabiliser et aussi de pouvoir améliorer leur ferme. Fait qu'ils ont décidé, ils ont dit, nous autres, on se retire de ce marché-là, on va s'occuper de la création, de faire pousser nos houblons puis de les vendre nous-mêmes. Fait que c'est là qu'Yakima Chief a été créé à la fin des années 80. Puis, fin des années 80, ça donne un petit peu aussi le début du craft aux États-Unis. Si on regarde la Sierra Nevada Pale Ale, c'était à peu près 85-86. Puis Yakima Chief a été créé en 87-88.
C'était une corporation au début? C'était vraiment une compagnie à part entière?
C'est vraiment une compagnie à part entière. Ça ressemble comme d'une... C'est pas une coop, c'est vraiment 15 fermiers propriétaires qui poussent nos houblons. Et on achète aussi du houblon d'à peu près une cinquantaine de fermes supplémentaires.
Alentour.
La majorité de nos fermes sont en Idaho, dans l'État de Washington, pas en Oregon.
C'était ma question que je voulais te poser justement. Sont où ces fermes-là?
C'est tout dans le Pacifique Northwest aux États-Unis. Donc, c'est des climats qui se prêtent bien à la récolte. Mais il y a même des différences de terroir dans ces trois régions-là. Si tu regardes la région de Yakima, d'où vient notre nom, Yakima Valley, c'est une région qui est très, très forte au niveau de la récolte. Il y a beaucoup de pommiers là-bas.
Okay.
Il y a des compagnies comme Del Monte qui font pousser beaucoup de fruits.
C'est un sol qui est vraiment riche en minéraux.
C'est un désert. Donc, c'est un désert. C'est niaiseux parce que c'était à peu près 2h30 à l'est de Seattle. Puis on connaît Seattle, c'est un peu comme Vancouver, il y a beaucoup de pluie puis tout ça.
Ouais.
Il y a les montagnes entre les deux, puis c'est une région désertique tout de suite après. Puis c'est de la façon que les houblons sont poussés dans la vallée de Yakima, c'est par irrigation. Donc c'est la chaîne de montagnes qui est autour, dont le Mount Rainier et puis les Mount Adams et tout ça. Il y a plusieurs montagnes, puis c'est le couvert de neige
qui font
que les fermiers récoltent, que gardent et ils irriguent leurs champs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros contrôle sur l'eau et tout ça.
Parce que un houblon, une plante d'houblon, ça paraît pas, mais c'est environ 1 gallon par jour que ça a besoin pour en pleine croissance pour grandir. Fait que là, tu me disais, ces régions désertes, là, j'étais comme... Tout ce que j'ai appris marche plus, là.
Non, mais c'est ça, mais tout est contrôlé, tout est irrigué. Mais si tu regardes, par exemple, on a 3 de nos fermiers propriétaires qui sont en Oregon.
Okay.
Les autres en Oregon, à 3 heures au sud de Yakima, dans la région de Portland, puis un petit peu au sud, là, Salem, Oregon et ces choses-là. Eux autres, ils ont beaucoup d'eau. Ils ont même des inondations. Fait que tu vas prendre...
C'est pas mieux non plus, là.
Non, c'est pas mieux non plus. Ils ont des fois plus de misère un petit peu avec la moisissure, avec d'autres problèmes qui peuvent se créer. Mais ça crée des houblons qui sont complètement différents. Si tu prends du Simcoe de Yakima, puis tu le compares avec du Simcoe qui est poussé en Oregon, tu vas avoir des différences.
Ah, c'est bon, ça!
Donc, c'est pour ça que c'est ça qui explique les différences de l'eau que le monde a.
Mais là, tu parles de... Oui, c'est ça, c'est intéressant. Par exemple, il y a des lots. Quand on achète des houblons en grosse quantité, ils mettent un lot dessus qui nous alpha, les bêta, les huiles, la date de récolte, si je m'abuse.
Là, on n'a peut-être pas la date de récolte, mais on a les fermes.
les fermes.
D'où ils viennent maintenant, sur le site. Donc, les gens, par exemple, si tu prends même des échantillons comme ça, des échantillons de homebrew, tu as un numéro de lot, tu vas sur le site de Yakima Chief, tu rentres, puis tu es capable de voir, en temps normal, les blends comme ça, ou les packs de homebrew, ou même la plupart des houblons qui sont livrés chez les brasseurs professionnels, ouais, sont des blends. Donc, autrement dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir un alpha qui est constant, tu sais, un arôme qui est constant, puis un profil qui est constant. Donc, on va prendre une partie de houblon de l'Idaho, une partie de houblon de Yakima, ou peut-être 3-4 fermes différentes pour que ça soit pas mal égal partout. Sauf, il y a certains brasseurs qui ont le privilège, parce qu'ils achètent en grosse quantité,
d'avoir ferme
une ferme, de faire une sélection, puis de dire, OK, moi, c'est vraiment le citra de cette ferme-là que j'ai aimé, puisque je l'ai senti, puis il y a plus de, je sais pas moi, orange creamsicle dedans.
Un peu comme dans le café ou le thé, que le monde va se déplacer où est-ce qu'il produit pour aller chercher vraiment le goût, la variété, le petit kick de plus qu'ils veulent avoir, qui donne un peu leur signature aussi en même temps.
C'est ça.
Ah, c'est vraiment cool ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans le houblon, aller vraiment dire cette ferme-là est mieux que l'autre.
Ben, il y a certains producteurs de houblon qui sont meilleurs dans certaines sortes de houblon.
OK.
Ça, c'est pas tout le monde qui le savent non plus. Mais,
Pasteur, oui.
maintenant, tout le monde le sait, mais il y a plusieurs personnes. Tu peux acheter du houblon, ensuite, en temps normal, venir à Yakima pour faire ta sélection. Puis on te met, par exemple, 5 samples ou des échantillons de 5 fermes différentes. Puis là, les gens frottent, sniffent le houblon, regardent les différences, puis tout ça, puis ils peuvent choisir.
Ça doit être vraiment les plus grosses brasseries, là, ceux qui achètent des grosses quantités, j'imagine. Ben, le brasseur de Delsun, j'ai jamais été invité, en tout cas.
Non.
Il n'y
a pas tant de brasseries que ça au Québec, puis au Canada qui le font, mais il y a peut-être autour de 25 brasseries qui le font.
OK.
Il y a un threshold, qu'on peut dire, pour être à l'intérieur des sélections. Puis il faut que tu achètes au moins 5000 livres ou 2200 kilos d'une sorte de houblon pour être éligible. Fait que 2200 kilos.
À tout le monde qui nous écoute, là, Citra, on fait tous des smash Citra, puis peut-être l'année prochaine, je vais être invité.
À aller faire des sélections à Yakima, mais on en reparlera.
Fait que tu me parlais de. On rentre dans un sujet qui m'intéresse quand même relativement beaucoup. Le monde qui écoute, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment ça fonctionne, l'achat de houblon quand tu as une boutique ou une microbrasserie au Québec. Tu t'occupes. Tu t'occupes pas des boutiques, toi, au Québec, tu t'occupes vraiment des microbrasseries. Ouais. On se connaît parce que je suis comme. On est amis, en réalité. Fait que c'est pour ça qu'il est ici. Mais comment ça fonctionne pour une micro qui rouvre? Mettons, moi, je rouvre ma petite micro, je brasse un BBL, je t'appelle, puis je te demande d'avoir des contrats doublons avec toi.
Les contrats, ça sera pas possible parce que nous autres, on prend les contrats pour des brasseries, mettons, environ 2200 hectos, 2000 barils. Là.
Fait que 2000 barils, fait qu'on veut un minimum d'achat pour avoir le privilège, si tu veux, d'avoir un contrat pour avoir des houblons
pour
sûrs.
Les contrats, oui. Sauf que tu peux acheter en spot avec moi sans problème. Tu as besoin de, je sais pas moi, 40 kilos de Cryo Equanote, ben je peux te le vendre, il n'y a aucun problème.
Ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais pour avoir un contrat, me dire, j'ai besoin, admettons, de 100 livres de Citra parce que mes recettes sont conçues pour ça et je prévois de vendre cette bière-là en considération. Ça, c'est des plus grosses brasseries, évidemment, qui vont avoir le privilège de prendre un contrat avec toi.
Oui, c'est ça.
Fait que si je veux un contrat ou si une brasserie veut un contrat avec toi, ils t'appellent, ça prend tant d'achats par année, j'imagine?
Oui, un minimum de 7 000 $ US par année.
C'est expédié à partir de où? De Yakima directement au Québec ou c'est moi qu'il faut qu'il... Avec mon contrat, je te demande 25 tonnes de citron, exemple, là. Faut que je le store chez moi?
Non. La façon que le contrat est fait, c'est que nous autres, on récolte en septembre.
Okay.
Le temps que tout soit produit, c'est disponible à la livraison à partir de janvier.
Fait que là, tu me dis que mon houblon que j'achète présentement, il n'a pas été récolté la semaine passée. Là.
Non. Il y a une récolte par année.
Il y a une récolte par année.
Un 5 à 6 semaines de belles récoltes de la fin août, début septembre jusqu'à la première semaine d'octobre à peu près.
Fait que les clients qui m'appellent et qui veulent avoir le plus vrai possible, c'est ceux de 2020.
C'est ceux de 2020. Puis même à ça, si ton houblon a été dans le paquet original, il a été storé au froid, du 2019 ou du 2018 est encore super bon.
Puis, y a-tu de l'azote dans vos paquets, vous,
oui,
ou c'est juste sous vide?
Oui, non, nous autres, c'est nitrogen flush.
Fait que c'est avec pour ça que c'est nitro.
Ouais. Fait que c'est très, très, très important. Si le paquet original a été respecté, comme ces petits paquets-là, oui. Un 2 ans, 2 ans et demi, même 3 ans, là, il va avoir une petite perte d'alpha, mais c'est à peu près tout.
OK. Puis là, ça, c'est un sujet qui me fait beaucoup rire, puis que sûrement qu'il va ouais. avoir un gros, gros, gros sourire. C'est pour ça qu'il prend une gorgée. Comment ça le connaître,
je
mon
sais
public?
Je sais ce qu'on s'en va.
Admettons comme moi, là, tu sais, le brasseur, j'achète un 5 kg de houblon citra, là. Je le transforme en 14 grammes pour mon client qui brasse des demi-batchs. Est-ce que tu es heureux?
Moins. J'aimerais mieux que le format original soit respecté.
Mais pourquoi?
Ben juste pour ça, parce que en ouvrant le paquet, t'enlèves tout le nitrogène, en plus, t'enlèves le brand. Souvent, ce que tu vas revendre, les numéros de l'eau,
non.
On ne sait pas de où il a été entreposé, qui l'a entreposé, combien de temps il a été entreposé au froid, la chaîne de froid a-t-il été respectée.
Brisée.
Donc, il y a plusieurs. Puis dans ce temps-là, ben, je veux pas, il y a des gens qui achètent le brand.
Oui.
Ils achètent Yakimochi parce qu'ils savent pertinemment que c'est de la qualité. C'est un bon houblon.
Fait que t'es en train de me dire que... Là, on parle de ma boutique, là, parce qu'il y a d'autres boutiques au Québec ou au monde, j'imagine, qui vendent du Yakimochi. Ouais. Je suis pas le seul qui achète en grosse quantité puis qui doit se remballer. Mm-hmm. Mais là, tu viens de dire quelque chose d'important. La chaîne de froid. Fait que tes houblons, faut tout le temps qu'ils restent au froid.
Ouais.
Faut pas le mettre sur ma tablette ou dans des pots ou...
Non. Puis c'est pas nécessaire que ça soit au congélateur non plus.
Fait que dans un frigo...
De 2-3 degrés... C'est parfait. Les entrepôts à Yakima, où on garde notre houblon, sont à 3 degrés.
En réalité, vous ne pouvez pas contrôler toutes les shops à qui vous vendez.
Non.
Parce que vous avez... Mettons, moi, j'achète pas directement de vous. J'achète d'un autre distributeur que lui achète peut-être de vous, mais peut acheter une partie d'un autre distributeur.
C'est ça.
Fait que la chaîne, vous ne pouvez pas la garantir.
C'est ça.
Fait que qu'est-ce que vous n'aimez pas là-dedans? C'est le fait de dire, j'ai acheté du citra de Yakima Chief, qui n'était pas bon. Vous savez, vous avez un protocole strict à respecter pour la chaîne que vous avez en production, si tu veux. Là.
C'est
de la production doublon que vous faites. Fait que c'est ça qui vous déplaît dans le fait qu'on remballe des baquets, puis des fois, c'est pas remballé comme du monde. Combien de temps qu'il a resté ouvert? Quelle température qu'il a resté ouvert? La chaîne de froid totale.
Où il était? Il a-tu resté sur un dock, en arrêt d'un camion en pleine canicule au mois de juillet? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas.
Mm-hmm.
Mais... Nous autres, ce qu'on veut, par exemple, moi, j'ai une brasserie qui est dans le coin ici, puis reçoit un lot, puis qui n'aime pas le lot. Bien, il est capable de me montrer, OK, c'est ce lot-là. Puis moi, je regarde avec l'historique, puis avec tout le backlog qu'on a. Je regarde aux États-Unis, je regarde au Canada, je regarde où il a été livré. Y a-tu mm-hmm. des plaintes, ce lot-là? Puis si là, je vois qu'il y a eu 3 ou 4 plaintes, bien, il y a certainement un problème. Fait que là, on le retire du marché, puis on l'échange contre un autre. Mais Maurice, qui est à Châteauguay, il décide de brasser une New England IPA, puis là, il ouvre son citra, puis il sait pas, puis il l'a acheté de quelqu'un, puis pas nécessairement tout, mais de quelqu'un d'autre.
Okay.
Puis c'est du 2017, puis qui a été ouvert 3-4 fois, puis qui a été scellé dans du cellophane avec une machine du Costco. Puis, tu sais, c'est bien le fun un food saver, là, mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux.
Ouais, c'est ça, exactement.
Fait que nous autres, ça me crée pas un problème personnel, mais je veux pas que les gens soient exposés au brand Yakimochi et disent ben finalement c'est pas super. Parce
ouais.
que nous autres, on met tout ce qui est en notre tous nos efforts pour que justement cette qualité-là soit au rendez-vous autant pour les brasseurs commerciaux que les brasseurs amateurs. Puis je le sais que le homebrew ou le marché des brasseurs amateurs au Canada présentement n'a pas été un de nos main focus. Malheureusement,
c'est un peu normal. Tu viens de me dire que ça fait 3 ans que tu travailles pour la compagnie,
ouais.
pour les brasseurs professionnels. Fait que c'est un petit peu difficile, en plus, de s'occuper des brasseurs amateurs. On s'entend.
Dans l'ensemble de la compagnie, là, le homebrew, c'est même pas 1% de nos revenus.
C'est un peu comme les fabricants doublons, les fabricants de lover, je veux dire. Tu sais, tu parles de... Ça me fait vraiment penser quand je parle à mes fabricants de lover qui me disent « Ouais, mais Fitz, je peux pas te le faire juste pour toi, là. » Tu sais, j'attends d'avoir la production des pros, puis là, je fais des petits paquets pour vous autres. C'est un peu le même principe, j'imagine, pour vos houblons.
Ben c'est ça. On en fait, mais on fait des samples comme ça, mais souvent, les samples sont remis dans des expositions, dans des conventions... en temps normal, par exemple, là, justement, le Craft Beer Conference, on va faire plein de samples pour que les gens les sentent, toutes ces choses-là. Mais de la vente directe au magasin puis au homebrew shop, ces choses-là, on travaille là-dessus fort, mais ce qu'on voulait faire avant au Canada, c'était s'implanter dans notre marché premier, qui est les brasseurs professionnels.
Bon, on s'entend, quelqu'un qui t'ajoute 28 grammes doublons deux fois par semaine, puis quelqu'un qui t'ajoute 10 kilos deux fois par semaine, c'est sûr que t'es plus payant à ramasser le 10 kilos que le 56 grammes.
C'est pas
grammes,
juste
là.
Plus payant, ça aussi, c'est un petit peu moins compliqué.
Oui,
parce
oui,
que tu nous envoies un 4 par 5, un 20 kilos, 4 sacs dedans, la boîte à part, puis pas pires amis, c'est réglé. Mais à court ou moyen, plus à moyen terme, on regarde vraiment pour être capable d'aider plus les homebrew shops.
OK. Puis j'ai une autre question pour toi parce que on a une communauté beaucoup francophone de France aussi qui nous écoute.
Voilà. Bonjour les amis.
Est-ce que vos houblons sont disponibles en Europe?
Nos houblons sont disponibles en Europe, certainement. On a un très gros entrepôt maintenant qui vient juste d'être inauguré à Louvain-la-Neuve. En banlieue de Bruxelles.
Okay.
Autant les brasseurs amateurs que les brasseurs... Ben, les brasseurs amateurs moins, mais les brasseurs professionnels, maintenant, ont accès à beaucoup plus de produits de Yakima Chief. Puis, ben, les brasseurs amateurs devraient suivre aussi...
Un peu comme au Québec, ça a fait. Là,
c'est ça.
On peut racheter des grosses quantités.
Même chose, mais j'imagine que les small packs, tous ces petits paquets-là, les 1 livre, 2 livres et les 2 onces et 1 once vont finir par arriver aussi en Europe. Là.
Fait que... C'est bien beau l'Europe, là, mais une petite question pour toi, mon Luc. Ce podcast à bière, ça fait comme 3-4 fois qu'on prend des gorgées de bière. C'est quoi que t'as emmené? Parce que je l'invite à venir faire un podcast, puis c'est lui qui emmène des cadeaux.
Hey, en plus, ça a juste bien à donner. Ce matin, ça cogne à la porte, puis j'attendais rien. Puis il y avait une belle grosse boîte à côté de la porte. Je sais pas, je suis supposé dire ça en plus, on n'est pas supposé recevoir de la bière par la poste.
C'est de l'eau.
Non, c'est ça, c'est de l'eau. Non, mais un de mes clients en Ontario, avec qui on a une super bonne relation, Yakima Chief et ce client-là, c'est Great Lakes Brewery.
OK.
Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques bières parce qu'ils ont essayé un nouveau blend qu'on fait chez nous qui s'appelle le Tri 2304 CR, qui est le nom qu'on a ici en small pack. C'est le nom de travail parce qu'il va avoir un release qui va se faire au mois de mai avec le nom.
Avec le vrai nom que vous allez décider, un nom brand.
Ça va être un nom brand, un peu comme les blends qu'il y a eu, comme le Falconer's Slide, comme le Zitos, comme de ces blends-là.
Puis là, tu dis ça, puis je suis sûr que le trois quarts du monde en fait comme « Le Falconer's Slide, c'est un blend? »
C'est un blend!
C'est pas une sorte!
Puis le Zitos aussi. Mais celui-là, sa particularité, c'est que c'est un blend de cryo.
OK.
Donc, c'est un blend qui a été conçu avec les houblons les plus susceptibles d'être les plus résistants à la biotransformation. Donc, en anglais, ils appellent ça « survivables ».
Oui.
Fait que on a fait un blend cryo avec ces houblons-là.
Là, dans 5 secondes que tu as parlé, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont fait pause sur le podcast en char, qui pause sur YouTube en char, qui nous regardent puis font « Wouah! Il y a trop de noms là, différents! Là. » Bon, le trio, quelque chose.
On va recommencer du début.
Après ça, le cryo, puis après ça, un blend, puis après ça, c'est quoi t'as dit d'autre?
Survivable.
Survivable, puis biotransformation.
Ouais. On va commencer du début.
Fait que là, tout le monde va comme « Wouh! Ça va être intéressant, ce podcast-là!
» Alors, on va commencer du début.
Par le
commencement.
Le commencement, moi, je pense que un blend, c'est plusieurs houblons mis ensemble.
C'est ça.
Right?
Tout à fait.
Est-ce que tu as le droit de dire les sortes d'houblons qui sont dedans?
Non.
Fait que tu n'as pas le droit de dire
les
variétés.
Parce que ça, en fait, je le sais pas. Je le sais en partie, mais je ne sais pas la composition exacte.
Exact. OK.
Parce que nous autres, ce qu'on a fait avec ce blend-là, c'est que, on parlera du cryo après, mais le blend, comme je disais tantôt, c'est que nous, on fait des études sur... Je n'ai pas trouvé la bonne traduction française.
Tu peux le dire en anglais, le mot.
Mais c'est vraiment « survivables ».
Les plus survivants,
ouais,
si vous
voulez. Ça. Autrement dit, ceux qui ont le plus de potentiel de survie au processus de brassage complet. Donc, autrement dit, il y a des houblons qu'on sait qui sont, en faisant des analyses, en faisant des études, qui sont plus susceptibles de garder leurs arômes, leurs propriétés puis leurs huiles que d'autres. Okay. Donc, par exemple, Azaka, super bon houblon, beaux arômes et tout ça, mais c'est pas un houblon qui est très, très fort, qui est très résistant à la biotransformation.
Fait que tu le mettrais pas à 30 minutes.
Je le mettrais en dry-up. C'est un houblon de dry-up.
OK. Fait que l'Azaka, 60 minutes, c'est un peu stupide.
Non, ça sert absolument à rien. C'est une perte de temps. Ben, tu vas en avoir, mais c'est que tu vas avoir des houblons qui vont être beaucoup plus résistants que ça.
Fait que c'est pour ça que sur votre site, ça va être marqué arôme, ça va être marqué dry hop, mais pas dry hop, mais arôme ou bolt, les deux, ou boy.
Ouais, mais même à ça, on le met pas vraiment. C'est vraiment, nous autres, ce qu'on dit, plus les arômes, les alphas, mais la plupart des brasseurs font leurs propres expériences, mais nous, pertinemment, en faisant les études, on le sait que l'Azaka est moins résistant. Tandis que des brands comme Idaho 7,
ouais,
ça qui est un houblon qui est super résistant à la biotransformation.
OK, puis là, la biotransformation, si le monde veut savoir, c'est quoi?
Oui, ben...
C'est... mettons quelqu'un fait « Ouais, c'est cool, biotransformation! »
Ben, c'est... Ben,
ça veut dire quoi? Est-ce que t'as des places où que le monde peut aller voir les gens partant?
On va mettre un lien. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est que quand les gens vont avoir fini d'écouter le podcast, j'ai une présentation d'une heure qui est en anglais, que je vais faire en français bientôt, mais présentement, elle est en anglais. Je suis en train de la traduire. Je vais la faire pour le marché du Québec. Mais pour l'instant, au moins, vous allez avoir le lien. C'est un de mes collègues qui s'appelle Spencer, qui est aux États-Unis, qui a fait la présentation sur la biotransformation avec Scott Janisch, qui est un gars assez connu dans le monde du houblon. Ouais. Puis, qui parle...
C'est pas lui qui a fait le livre Ops.
Et voilà, le livre de New IPA,
ouais,
entre autres. Puis, il parle justement de ce blend-là, puis de la biotransformation, puis des survivables, autrement dit. Okay. Pendant une heure de temps, fait que vous allez pouvoir écouter, voir, lire et comprendre qu'est-ce que c'est en général.
Mais pour un résumé super vite, en 10 secondes?
Ben c'est autrement dit, c'est qu'il y a des gens qui... Il y a des houblons qui sont meilleurs... utilisé pendant en fermentation active, par exemple.
Durant les trois... Mettons, on dit souvent faire un dry-up les trois premiers jours.
Puis même à ça, souvent, avec les nouvelles levures,
ouais,
ça faudrait même que tu le fasses dans la première journée ou première journée et demie. Parce que,
tu parles d'une vague, là.
Ben, c'est ça. Ouais, ou même à ça. Mais la plupart des gens font des dry-up souvent après fermentation.
Ouais.
Mais la plupart de nos houblons sont excellents, même des fois plus efficaces quand tu fais les dry-up en fermentation active.
Puis là, vous savez quoi, là? Fermentation active égale CO2 qui s'expulse.
Eh oui, et explosion.
Et qui égale aussi pas d'oxygène qui rentre, qui égale aussi pas d'oxydation. Fait que, écoutez le brasseur quand il vous dit que vous pouvez faire vos dry-up en Aikrasen, qui est la grosse, grosse biotransformation dont Luc parle présentement. Mais pour les technicalités plus spécifiques, allez voir le petit vidéo ou les petites choses qu'on va vous mettre en description. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre.
Tout à fait. Donc, pour le blend, c'est un blend de cryo. On parlait de cryo.
Ouais, mais
il y a
bien
des
ça,
gens qui ne savent pas c'est quoi le cryo.
Exactement.
Non plus. Donc, on y arrive au cryo.
C'est une nouvelle variété, ça.
Mais non!
Okay.
Le cryo, ça fait, c'est du houblon régulier. C'est un brand, une marque de commerce qui est chez Yakima Chief depuis à peu près 4 ou 5 ans.
OK.
Ou à peu près 2016-2017, ça a commencé, oui.
Un peu avant toi.
Un peu avant moi.
On va se situer dans le temps avec toi.
Oui, tout à fait. Deux ans, on va fêter de 5 ans là, du cryo.
Parce qu'au Québec, c'est depuis que Luc est rentré en poste, Yakima Chief existe au Québec. Pas réellement, mais mettons.
Il y avait des gens qui avaient des contrats avec Yakima Chief directement, mais il y avait un petit peu moins de services à la clientèle et beaucoup moins d'accès à des houblons, soit expérimentaux, soit nouveaux produits, ces choses-là.
Fait que depuis 3 ans que t'es là,
ouais.
Fait que 2 ans avant, le cryo a existé.
Oui, tout à fait.
qu'on se place dans la
genèse,
ligne de temps.
La genèse du houblon au Québec, mais deux ans. Mettons 2016-2017. Puis le cryo, ben c'est assez facile, c'est qu'on prend la fleur, la cocotte de houblon.
Mm-hmm.
Puis il y a des feuilles, il y a à l'intérieur de la cocotte de la lupuline qui fait un petit peu, qui fait le gros du travail, autrement dit, au niveau de l'arôme puis au niveau des alphas. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on cryogénise la fleur, on enlève tout ce qu'il y a de matériel feuillu, autrement dit, le plus possible. Puis ce qu'on garde, en gros, c'est la lupuline.
Fait que vous prenez le cœur... Puis le reste des feuilles, vous le jetez au vidange.
Non, on le jette pas au vidange. Mais ça, on va continuer. On va finir le cryo. Okay. On va garder ça pour une deuxième partie. Mais le cryo, c'est ça. Donc, autrement dit, quand on récolte du citra régulier, puis on le met en pellette régulière ou en granule régulière, le T90, tu sais, les alphas sont peut-être de 10-11%
environ
pour du citra régulier. Mais du cryo, en enlevant la feuille et en concentrant le tout, ben là, on a des alphas à 19-20%.
Fait que vous enlevez qu'est-ce qu'il y a le moins d'alpha dedans, le moins de lupuline dedans, l'extérieur des feuilles, pour concentrer le cône milieu qui fait augmenter nécessairement. Il est moins coupé, si on
c'est
peut
ça.
Dire.
Fait que donc, autrement dit, tu en utilises moins. Puis, ben, ça te permet, à grosse échelle, à grande échelle, ça te permet d'avoir plus de produits finis.
Hey, t'as-tu attendu des NAIPA, toi? Parler des NAIPA?
Ça me dit quelque chose.
Ça dit quelque chose? Ouais. Tu sauras qu'un amateur aussi en met pas mal. Puis dans 20 litres, là, je vais te dire que ça vaut quand même la peine de prendre du Cryo Ops pour mettre dans ton 23 litres, surtout quand tu perds 3 litres.
Ben c'est ça. Fait que là, t'as plus de bière au final. Fait que c'est là, tu sais, le prix est le double, mais peut-être un petit peu plus.
Mais t'en mets moins.
Donc, t'as plus de produits finis. Donc, tu fais des économies à la fin quand même. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est ça le Cryo en tant que tel. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que pour le blend, le Tri-2304CR, avec le nom à venir bientôt, c'est qu'on a pris les houblons qui étaient les plus « survivable
ouais. »
dans notre charte. Puis, on a fait un blend avec ça. Puis, c'est nos amis de Great Lakes Brewery à Toronto qui ont décidé de faire une bière, un mono-houblon avec le blend qu'on est en train de boire présentement.
Puis, vous savez que je déteste les NAIPA. Je déteste pas ça, mais pour moi, c'est comme... C'est pas une bière que j'aime boire, tu sais. Mais ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment solide, là.
C'est, en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est mono-houblon, mais c'est pas vraiment mono-houblon parce qu'il y a plusieurs houblons dans le blend. Mais, tu sais, on a des arômes d'orange, tangerine. Puis, on parle un petit peu de Jolly Rancher, ouais, les bonbons. Ça sort vraiment, vraiment super bien. Puis, c'est pas les... Tu sais, on parle de... Moi, j'ai amené une bière de l'Ontario pour pas rendre personne au Québec jaloux.
Exactement.
Sauf qu'il y a des gens... qui utilisent présentement, au niveau commercial, le Tri-2304CR, qui obtient des excellents résultats. Je vais donner deux, trois exemples. Il y a la Brume du Nord de Boréal,
ouais.
Qui a du Tri-2304 dedans. Il y a aussi Lagabière, bientôt, où ils sont sur le bord. Ils vont faire une Tameilleur, mais version Tri-2304CR okay. aussi. Donc, c'est deux là, qui me viennent à l'esprit comme ça.
Un très, très bon houblon qui vaut la peine d'être découvert. Puis, je vais en profiter parce que on est un peu dans ce sujet-là du tri. Parce que là, je sais, le monde va tout me texter. Fait, tu n'as-tu? Non. C'est clair?
Et voilà.
J'en ai pas.
Il y en a dans les mains, par exemple. Il y en a 5 paquets.
Fait que, mon ami Luc a été assez gentil pour emmener des... différents houblons à nous faire tirer. Fait que vous connaissez la procédure, allez en bas, suivez les renseignements que vous avez à faire. C'est sûr qu'on va demander d'aller visiter le site de Yakima Chief pour aller voir. Puis même, ça va vous aider à mieux comprendre les houblons. Si jamais certaines souches de houblons que vous utilisez, puis vous savez pas trop comment le goût, comment l'utiliser, ben Yakima Chief, ils ont plein d'exemples, ils ont plein de documents. Ils ont plein d'informations sur le houblon. C'est eux qui le fabriquent, c'est eux qui le font pousser. Alors, c'est la meilleure source, beaucoup mieux qu'aller sur Google puis marquer Tri-2404CR et pogner Roger qui est dans son garage qui dit « ça goûte ça ».
Mais je pense qu'il n'y aura pas tant de monde qui vont avoir fait
Je pense pas que Roger va l'avoir beaucoup.
Non, je pense
là.
Que Tri-2304, il va plus avoir des articles de Yakima Chief qui vont sortir. Ou Scott Janisch, ou des trucs du genre. Parce que c'est quand même assez nouveau.
Oui, je connaissais vraiment pas ça avant que tu l'emmènes ici. Fait qu'on va vous faire tirer trois choses. Fait qu'on va faire comme trois sections de concours pour pouvoir gagner. On peut gagner une magnifique casquette. On a comme deux modèles, là. Mais vous n'allez pas choisir, c'est moi qui vais choisir laquelle je vous l'envoie. Puis là, il y en a deux sur la table parce que je n'étais pas sûr si je faisais tirer les trois ou si j'en gardais une pour moi. Mais je vais être gentil, vu que Luc m'en amène une fois de temps en temps quand il passe dans le coin. Je vais vous faire tirer les trois casquettes avec un paquet d'houblon. Puis il m'a apporté 5 paquets de 5 houblons, c'est ça, Luc?
Oui, on a le Tri-2304CR.
Oui.
Il y a des houblons expérimentaux. Donc HBC 472, HBC 630. Et aussi, j'ai apporté du Cryo Idaho 7 et j'oublie le dernier. En tout cas, anyways, c'est tous des houblons super.
Fait que vous allez avoir un kit casquette houblon 5 fois et 3 fois. et deux fois juste les cinq houblons que Luc a emportés. Je fais tout tirer. Je sais que tu m'avais dit que je pouvais en garder, là, mais gars, je fais participer le monde. Ça va être vraiment cool. Puis je vais payer le transport, ça ne me dérange pas. Pour le monde en Europe, je sais pas comment ça fonctionne. Fait que je suis vraiment désolé. C'est vraiment pour le monde du Québec qu'on va le faire tirer aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai aucune idée comment les douanes fonctionnent. À ce temps, j'ai un contact aux douanes. Je vais pouvoir, je vais pouvoir checker ça. Mais pour le monde du Québec, on va tout faire tirer au complet. Puis s'il y a du transport à Paris, ça va me faire plaisir de le payer, mettre ça dans la petite boîte et vous envoyer tout ça. Fait qu'on était rendu au cryo.
Ouais, on a parlé un petit peu du cryo.
Qu'on enlève les affaires, les... qu'on concentre les comptes.
Ouais. Mais là, les affaires qu'on a enlevées.
On fait quoi avec les affaires qu'on a enlevées?
Ben, un autre brand. C'est pas... Parce que t'enlèves la feuille puis t'enlèves ce qu'il y a autour.
Ouais.
Sauf qu'il y a encore de l'alpha là-dedans. Il y a encore
de l'arôme.
Il y a encore de l'arôme, tout à fait. Puis, ben ça, on a un autre brand qui s'appelle American Noble. Fait que tout le monde dit, mais c'est plus bon. Non, au contraire. C'est que tu peux avoir du citra à 1, 2, 3 % d'alpha.
Mais qui va goûter le citra.
Ben, qui va goûter. Tu vas avoir quand même un backbone de citra, mais ça va être pour faire des bières plus délicates. Kolsch, lager, saison, même des sour, tu peux utiliser ça. Puis ça te revient une fraction du prix. Puis, ben, puis on a aussi des blends de American Noble que tu peux acheter qui peuvent...
Ça, j'avais pas vu ça passer, par exemple.
Par exemple, Pacific Crest, qui est un de nos brands, c'est du American Noble. Donc, c'est des restants de cryo, autrement dit. Donc, la partie qu'on n'a pas utilisée pour le cryo. Ce blend de houblon-là peut être utilisé pour remplacer Alerto, Texas, des trucs du genre, une fraction du prix aussi.
Là, tu viens d'arriver dans un sujet que j'avais le goût d'aborder avec toi parce que il y a beaucoup de livres de recettes qui datent des années 80, OK? Mm-hmm. Mais beaucoup de livres de brasseurs amateurs datent des années 80. Puis, il y a du Alerto, il y a du Golden. Puis là, moi, je commande chez toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, Alerto, il n'y en a pas. Golden, il n'y en a pas.
Là, je suis comme... Là, c'est pas des variétés US.
US.
C'est ça.
Puis là, je suis comme, OK, mais... Je fais quoi? Fait que là, j'appelle Luc. Puis je dis à Luc, hey Luc, je le texte. Je l'appelle pas très parce que je veux pas le déranger. Je le texte. Fait que je texte Luc en lui demandant, ouais, Alerto, oh non, on n'a plus. OK, évidemment. Golden, oh non, on n'a plus non plus. Pourquoi?
Bon, on n'en produit plus.
Pourquoi?
Ben parce que les gens veulent l'original. C'est juste que c'est une question de terroir aussi.
Fait qu'ils vont aller dans le Ken Golding.
Le East Ken Golding, la version anglaise.
Ouais.
Le Texas. Donc, tous ces houblons-là.
Technag, même chose avec du GR.
Les gens veulent avoir la version originale, donc européenne.
Fait que vous allez acheter de l'Europe pour distribuer.
C'est ça. Puis nous autres, on achète ces houblons-là qu'on redistribue à nos clients.
Fait que si vous demandez du Alerto US, il n'y en a plus.
Ben, il y en a, mais plus des producteurs de chez Yakimochi ou des producteurs de qui on achète, il n'y en a plus.
Ouais, c'est ça. Fait que... On se trouve à avoir des demandes en amateur parce que quand on commence à faire de la bière, on va souvent se fier à des vieux livres que dans le temps, il y en avait.
C'est ça.
Mais là, présentement, les houblons les plus vendus, les plus populaires, vont être les houblons pour faire des NEIPA dans le type de NEIPA.
Oui.
Puis on en met aussi beaucoup plus. Fait que c'est sûr que le producteur qui dit « j'ai un champ de Golden que je vais acheter, je vais le remplacer par un champ de houblon de Citra, un exemple. » C'est beaucoup plus alléchant pour lui.
C'est ça, puis beaucoup plus payant, mais...
Mais tant qu'à l'acheter.
C'est ça, puis c'est à cause que... Je veux pas parce que l'acreage total, le total des acres de récolte aux États-Unis augmente pas tant que ça. C'est juste qu'on fait des switches.
Exactement, c'est avec comme... les contrats, tu nous parlais tantôt.
C'est ça, bien, les contrats, ça nous aide aussi. Tu sais, souvent, les brasseurs disent « pourquoi faut que je signe un contrat » et tout ça. Bien, nous, les contrats, en plus de vous garantir, de garantir aux brasseurs les houblons qu'ils veulent avoir pendant toute l'année de récolte,
mm-hmm.
Bien, ça nous, quand les gens signent à l'avance, 2 ou 3 ans à l'avance, bien, nous, ça nous permet d'un petit peu de savoir où le marché se dirige puis comment, qu'est-ce qu'on doit planter puis qu'est-ce qu'on doit enlever. C'est comme il y a une dizaine d'années, les houblons les plus populaires, c'était les C, là, Cascade, Centennial, Chinook. À cette heure, bien, la demande est moindre.
Tu dirais-tu que le Cascade n'est pas moins brassé, mais le monde va l'utiliser plus localement, même si j'imagine... Là, on parlait des États-Unis qui ont deux terroirs complètement différents d'après l'autre.
Deux ou trois, là,
ouais. Ouais, ouais, ouais.
Puis mais... même à ça, plus que ça, parce qu'il y a des houblons, il y a hop, Michigan hops, il y a plein de places aux États-Unis qui font pousser des houblons. La même chose au Québec. Puis si tu prends un houblon, le cascade québécois...
Ouais, il doit pas goûter la même chose que le houblon cascade que tu fais pousser.
C'est pas pantoute la même affaire. Si tu peux avoir des houblons québécois, tu vas avoir des houblons de québécois de super qualité... maintenant, mais si tu regardes, tu compares le cascade québécois avec le cascade qui est poussé dans le Pacific Northwest aux ouais. États-Unis, ça va être deux houblons complètement différents. C'est la même chose, c'est la même question de terroir au niveau du vin, ces choses-là. Mais voilà, tu vas goûter des arômes, ça va être complètement différent. C'est juste que les gens, ils vont dire, OK, moi, j'ai du cascade dans ma recette, ben je vais me prendre du québécois.
Pour encourager,
leur tête, ça va être oui, puis dans leur tête, ça va peut-être être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. C'est le fun de faire, c'est peut-être si tu as du cascade québécois puis du cascade américain, ben c'est de faire deux bières avec... tu fais une bière, tu fais deux batchs, tu dry-up avec les deux différemment, puis tu vas voir la différence.
Mais tu le vois beaucoup plus en dry-up.
Mais tu vois quand même les différences. Les différences sont majeures. Tu vas même le voir au niveau des alphas. Tu vas même le voir au niveau des huiles aussi.
Oui, parce que moi, où je jette, c'est Awick.
Ouais.
Puis j'étais à 8,1%. Puis il me semble, dans le temps, c'était quand j'achetais du américain, c'était du 6,5. Fait qu'on s'entend que c'est la même plante, mais c'est pas nécessairement...
C'est ça, c'est le même, ça vient de la même...
souche.
La même souche, le même rootstock du début. Mais de la façon... Le procédé n'est pas le même non plus.
Non, exactement. Oui, c'est sûr que les petites fermes n'ont pas le même procédé que vous, j'imagine, non plus. Là.
C'est ça.
La personne qui fait pousser un arbre, puis vous en faites pousser combien d'arbres?
Là, nous autres, c'est 15... Nos fermes, c'est 15 000, je pense.
Fait que c'est un arbre contrairement à 15 000 arbres. On s'entend que vous avez peut-être un peu plus de moyens que le petit fermier qui a commencé à faire ça au Québec parce que c'est la mode de faire pousser du houblon, là, tu sais.
C'est ça. Puis, ben les techniques sont différentes, puis veux pas, ben la plupart de nos producteurs, c'est des fermes multigénérationnelles. Là, donc, c'est des...
Ça fait plusieurs années.
Puis, une petite parenthèse là-dessus, ce qui est vraiment drôle à Yakima, c'est que tu arrives là-bas, puis tu vois le nom des fermes, puis il y a Charon, Perrault... pour vrai, là. Charon, Perrault... là, j'en oublie, là, parce qu'il y en a un paquet. Desmarais, Roy... Roy Farm, c'est Roy. Nous autres... Peralt Farms.
Il n'y en a pas un qui parle français là-dedans. Là.
C'est tous des gens qui ont émigré du Québec à la fin des années 1800, qui sont en allant dans ces régions-là pour partir des fermes. Puis pas nécessairement des fermes de houblon. Il y avait toutes sortes d'autres choses. Mais ces noms-là ont resté. Fait que on pourrait parler un petit peu de breeding tantôt, puis de création de nouveaux houblons. Mais le créateur du Mosaïque, puis du Simcoe, c'est Jason Perrault. C'est Jason Perrault. Puis c'est un des propriétaires aussi de Yakima Chief. Puis Perrault Farm, c'est une des plus grosses fermes. C'est pas la plus grosse ferme au monde présentement. Qui est dans l'état de qui est dans la vallée d'Yakima. Puis c'est des gens d'origine québécoise à la base, mais qui parlent pas français, puis ils sont jamais venus au Québec aussi. Fait quand ils me voient, eux autres sont comme très contents de me parler. Puis même l'année dernière, à cause de la pandémie, ça a été cancellé, mais les Perrault, père-fils, étaient supposés venir faire le tour du Québec là, puis faire
une tournée.
Mais c'est tous des gens qui sont originaires du Québec à la base. Il y en a plusieurs... plusieurs noms là, dans la vallée d'Yakima. Puis tu vois même les rues, des noms de rues, puis c'est des noms francophones, puis c'est tous des descendants du Québec.
Mais qui ont perdu avec le temps
le français. Ben, ils ont tous des prénoms en anglais, tout ça, puis ils ne parlent plus nécessairement français, mais c'est le fun de voir ça, qu'on a quand même... c'est full circle. Ouais. Souvent, ils me disent ça. Regarde, 100 ans après, on t'a engagé, puis tu travailles pour nous autres, mais on vient du Québec.
Fait que tes enfants ou tes arrière-enfants vont finir par plus parler français.
J'espère que non. On verra dans ce temps-là, mais au moins, si ils sont bilingues, ça sera pas mal. Mais pour revenir au houblon, ils ont des choix à faire. Puis, ben les variétés comme Golding, les variétés comme US Saz et tout ça, ben les gens veulent l'original. Mais maintenant, avec le American Noble, dont on parlait tantôt, on est capable de reproduire, avec une petite twist américaine, quand même, peut-être un petit peu plus de fruits, des houblons qui sont capables de remplacer ces houblons-là, puis avec une super qualité.
Fait qu'on pourrait avoir des pilsners avec du citra dedans.
Ben oui, il y en a. Il y en a qui le font.
Il y en a qui font... mais qui se trouvent noble, c'est ça. Noble, au lieu d'être
mosaïque. Sas. Mosaïque, il y a le Laurel, Mosaïque, Simcoe, Citra, mais version low alpha, donc autour de peut-être 2-3%.
Ça, c'est vraiment cool, parce que le monde souvent dit « OK, fait, tu as du Noble, mais ça sert à quoi? » Un jour, je vais pouvoir faire quelque chose pour vous sachiez d'où ça vient puis comment c'est fait. Ce jour-là est fait.
Et voilà, le problème est réglé, à ce temps d'aller voir Fitz.
Fait que, mon Luc, avec les années, j'ai vu plusieurs variétés aussi de houblons apparaître sur le marché, dont un houblon qui est assez... En tout cas, je pense qui est assez récent, le Pateau.
Oui.
Mais de où... Comment vous faites ça, des nouveaux houblons? Vous faites des blends de houblons? Vous créez des nouvelles plantes génétiquement? Ouais. Vous...
Non, c'est de la...
Oui à tout, genre?
Oui à tout. T'as des parties de réponse. Nous, on a une compagnie qui s'appelle Hop Breeding Company.
OK.
HBC. Souvent, il y a des... Quand tu vois des nouveaux houblons qui sont créés ou des houblons expérimentaux qui sont créés, c'est HBC avec un numéro.
Ouais.
C'est comme par exemple, Citra, c'était HBC avec un numéro. Je sais pas moi, HBC 692. On vient de sortir Talus, qui s'appelle Talus maintenant, qui est un nouveau houblon.
Le dernier mou du vendredi que j'ai fait.
Avec Talus.
Avec Talus.
Bon, ben regarde, ça, c'est des houblons qui sont créés par la Hop Breeding Company. La Hop Breeding Company, c'est un peu compliqué, c'est vraiment bizarre. C'est que le plus gros producteur mondial de houblons, c'est Haas, qui est une compagnie allemande. Aux États-Unis, ça fonctionne sous Bart Haas. Et la deuxième compagnie, ben, c'est nous autres, Yakimoche.
Okay.
Et nous, on est dans un... Au début des années 90, il y a eu des genres de chicanes pour des créations de houblons. Puis on a été obligés de se mettre ensemble, les deux compagnies qui sont compétiteurs, dans une compagnie qui s'appelle Upbreeding Company, donc qui appartient 50% à Haas puis 50% à
Yakima Chief.
Pour la, Yakima Chief pour la création des nouveaux houblons. Donc, ça appartient aux deux. Puis, donc, on crée les houblons ensemble. Puis, quand c'est le temps des ventes, on compétitionne.
C'est quand même assez bizarre.
C'est
là.
Pour ça que du Citra, tu vas avoir du Citra de Yakima Chief, mais tu peux avoir du Citra de Haas aussi.
C'est comme si tu dirais Molson et Labatt créent leur même recette ensemble. Ouais. Puis après ça, ils se séparent.
C'est comme s'ils faisaient une Molson 50.
Ouais, tu sais que j'en ai une chez nous.
Une Molson 50?
J'ai une Molson 50 chez nous. J'aurais dû l'emmener. Je vous garantis qu'elle se ramasse dans le décor en arrière. J'ai une Molson 50.
Mais le houblon fonctionne comme ça. Puis le lead, ben, un des la création des houblons, la façon que ça fonctionne, on en sort un à peu près aux 2 ou 3 ans. Mais par année...
Il me semble que cet ancêtre, vous en sortez pas mal.
Ben, il y a eu Sabro il y a 3 ans.
Sabro. Ah, mais peut-être qu'en Homebrew, on le reçoit... Peut-être qu'en Homebrew, on les reçoit comme plus...
Collé. Ou, mais tu sais, comme Sabro, ça fait à peu près 3 ans qu'il existe, qu'il est sorti sur le marché avec le nom Sabro. Il y a eu Pato un an avant, il y a eu 2 ans de break, puis là, il y a eu Talus en septembre l'année dernière.
Qui a fait un gros hit.
Oui, puis c'est la fille de Sabro. Donc, on a pris la plante, mais c'est vrai, c'est daughter of Sabro.
J'ai vraiment ri parce que j'ai lu exactement quand tu me dis là, je l'ai lu littéralement quand je l'ai acheté. J'ai dit, bon, OK, on va aller voir c'est quoi. T'sais, mon représentant doublon, qui n'est pas lui, m'a dit, ah, on a du Talus. Je suis comme, OK, c'est beau, je vais en prendre 10 kilos puis je vais aller voir c'est quoi après.
Mais ça, c'est parce que nous autres, la façon que ça marche, c'est qu'ils font de la pollinisation, de la cross-pollinisation, ouais. Autrement dit. On fait environ de 30 à 40 000 pollinisations différentes par année.
Là, regardez bien la face, là. Y a-tu du miel de hops?
Non, je ne pense pas. Je m'attendais pas à ça comme question.
Je parle de pollinisation, d'habitude, c'est pas mal les abeilles qui font ça.
J'ai vu du savon ou blond, j'ai vu bien des affaires, mais du miel, je n'ai pas vu encore.
Ah,
c'est
mais, ça fait pas peur, ça.
Mais la façon que les houblons sont créés, c'est ça, c'est que on fait de la pollinisation.
Ouais.
Puis il y en a un sur des fois 30 ou 40 000 qui va sortir correct. Puis même à ça, le procédé de la pollinisation, c'est la première pollinisation, donc originelle, jusqu'à temps que ça ait un nom sur le marché, le processus prend à peu près 10 ans.
Kim, fait que c'est assez long, là.
Oui, parce que tu peux. T'as des surprises qui peuvent arriver à peu près. OK. Tu tu le prends, la première année, ça va bien. La deuxième année, problème de résistance au...
Au froid,
au froid, pas au froid, ou par exemple aux bébites, ah, ou ouais? genre, ça marche pas. Ou genre, il pousse pas assez bien. Les cônes, il y a pas assez de cônes dans les vignes pour que ça soit rentable. Les arômes sont pas là. Ou après 4-5 ans, les arômes...
Mais ça, c'est intéressant, par exemple, parce que tu dis qu'il y a pas assez de cônes. Fait que... Un Cascade, un Citra, un Simcoe, un Sabro.
Ça donne toutes des variétés. Ça donne toutes des quantités différentes.
Fait que vous le savez qu'un Citra va donner à l'ocre tant de tonnes, puis voilà. Un Sabro tant d'ocre ouais. à l'aune.
C'est ça.
À l'ocre.
Ouais.
Ah ouais.
Fait que c'est pour ça que faut que ça soit quand même aussi rentable pour le fermier de le faire. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça soit résistant aux bébites, résistant pest resistant, la moisissure, ces trucs-là. Mais aussi, on veut que les arômes soient là.
Le houblon est comme n'importe quelle plante au monde, j'imagine, peut avoir des bébites mangeuses qui vont aller les chercher. Il y a des bébites qui s'accrochent à ça, qui peut manger les feuilles, j'imagine.
Oui.
Moins de feuilles, moins de luminosité, moins de pertes.
Ou genre, pas juste les feuilles, ils s'attaquent directement au cône.
Au cône aussi?
Oui, le cône devient brun, ça sèche, ces trucs-là. Puis, ben, on crée des nouveaux houblons, des fois pour remplacer. Tu sais, comme par exemple les houblons High Alpha qui sont utilisés pour
l'amertume.
L'amertume, le bittering. Tu sais, il y avait le CTZ, qui est Columbus, Zeus, puis Tomahawk.
Ouais.
Donc, c'est tous des brands qui sont pareils.
Attends une minute, là, je te coupe là, parce que je peux avoir du Columbus, du Tomahawk.
Du Tomahawk.
Du Tomahawk, puis du Saz.
Zeus.
Du Zeus.
Ouais.
Puis les trois noms pourraient porter n'importe quel nom des trois.
C'était des problèmes de trademark. Ça. Dans les problèmes de trademark, je t'ai dit au début des années 90, là, ça en est ça. Que c'était les mêmes rootstock, mais il y avait des noms différents. Fait que c'est pour ça que le CTZ, c'est les trois ensemble.
Ah, OK.
Mais ce houblon-là, en particulier, il y a des problèmes de résistance à certaines bébites. Puis fait qu'on a essayé de créer un houblon qui serait plus résistant au changement de température, ils appellent ça pest resistant aux bébites, puis tout ça. Puis on a créé Pato il y a quelques années. Donc, il y a un High Alpha. Donc, Bittering Hop, super bon houblon, puis qui est plus facile pour les fermiers à récolter, à faire pousser, puis qui obtient
un meilleur... Éventuellement, quand le monde va être habitué avec ce genre de houblon-là, il va en avoir plus.
Oui.
Le prix va réduire aussi.
Bien, on a remplacé beaucoup des champs de CTZ par du Pato. Fait que Warrior et Pato font un job incroyable au niveau du Bittering, tout ça. Mais... pour ce qui est des houblons aussi plus fruités, ben c'est ça, le procédé dure à peu près 10 ans. Comme là, on a sorti HBC 692 qui est Talus.
Ouais.
Puis on a d'autres dans le pipeline qui sont là depuis quelques années, le HBC 472 qui est aussi relié au Sabro. J'ai HBC 630 qui est un autre hors d'idée, mais aussi très tropical. C'est des houblons, surtout pour faire des IPA.
Que tu vois évoluer dans le temps avec la mode des IPA, la mode des bières qui goûtent un petit peu plus tropicales.
C'est ça. T'sais. Quand ces houblons-là sont produits, les deux, trois dernières années, après 7-8 ans, nous autres, ce qu'on veut, c'est le mettre dans la main des brasseurs professionnels qui fassent des bières avec. Pour savoir le potentiel, puis comment ça sort, puis comment que les gens vont l'aimer dans le marché.
Mais qui fait vos tests? Des brasseurs amateurs comme...
Non, des brasseurs professionnels.
Fait que les brasseurs professionnels vont dire « Qu'est-ce que t'as de nouveau? Je veux tester.
Je veux essayer ça.
Je veux voir ce que ça va donner, quelle sorte de houblon que je suis capable de... Quelle sorte de bière je suis capable de sortir avec ça. »
Tout à fait. Tu sais, comme par exemple, je prends un exemple, l'année dernière, la Gabière avait fait le combat des Chiefs. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça.
Oui, j'ai vu ça.
Il y avait deux bières différentes. Il y avait la même base, le même grain, la même levure, puis deux houblons expérimentaux, le 472, qu'on est en train de boire présentement, une bière au 472.
Très bon.
Justement, qui a été faite avec Great Lakes Brewery. Et aussi, il y avait le 692, qui n'était pas nommé à ce moment-là, qui est Talus. Puis donc, il y avait le combat des Chiefs, rouge et bleu, puis les gens pouvaient comparer les deux houblons.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Fait que nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on voit aussi les résultats, comment les brasseurs le trouvent, puis ben, comment le public aussi l'aime, puis l'adhésion. Puis après ça, ben, nous autres, c'est plus facile, ça confirme nos affaires. Fait que le nom officiel est sorti au mois de septembre. Puis là, ben les prochains... En temps normal, c'est 2 ans. Fait que moi, j'ai comme l'impression là, que septembre, l'année prochaine, là, 2022, là, on devrait avoir peut-être un nouveau houblon qui sort encore nouveau. Là.
Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'on vérifie comment que les brasseurs vont travailler avec, mais aussi le grand public, le monde qui nous écoute présentement, que c'est quoi leur réaction à ces houblons-là. C'est vraiment eux qui disent si ça va être un succès ou un échec.
Comme par exemple, il y a des houblons qui sont des succès tout de suite en partant. T'sais, comme Idaho 7, ça a été un super succès. Citron, on n'en parle même pas. Regarde, là, Citron Mosaïque, c'est des succès incroyables. Le Simcoe, ça fait 20 ans que ça dure. C'est encore un succès. Oh, oui. Les gens l'aiment beaucoup.
Ça fait 20 ans, Simcoe?
Oui, Simcoe, ça fait 20 ans. Puis ben, on en reparlera tantôt de Simcoe, d'ailleurs, par rapport aux brevets et ces choses-là.
Oui.
Tu sais, comme par exemple, Sabro est sorti. Puis Sabro, c'est un houblon que des gens aiment beaucoup, puis des gens aiment moins.
Le noix de coco.
C'est le coconut.
Qu'est-ce que j'ai remarqué, là? Quand j'ai dit à quelqu'un, il peut ressortir de la noix de coco. Puis là, quand on dit que ça peut ressortir, c'est pas une noix de coco que tu manges nécessairement, là.
C'est l'arôme...
C'est l'arôme total, tu sais, c'est...
Mais c'est un houblon que, maintenant, les brasseurs apprennent à doser comme il faut.
Ouais.
Puis il y a des places aussi que tu peux le mettre dans ton brassage ou dans ta fermentation qui vont réduire ces arômes-là.
Ouais.
Fait qu'il y a des gens qui font des bières 100% Sabro, qui ça pète le coconut au maximum. Puis il y a des gens qui vont l'utiliser à 20-30% un petit peu ailleurs avec des blends, puis ça va être sublime aussi. Mais c'est un houblon qui est super polarisant, mais nous, on l'aime. Les gens, la majorité des gens l'aiment. C'est pas un houblon de brasseur.
Non.
Les brasseurs aiment moins ce houblon-là, mais le public l'aime. Puis les brasseurs commencent à l'utiliser un petit peu plus parcimonieusement, un petit peu partout. Puis c'est d'apprendre à le doser. Mais Talus, le dernier qui est sorti, qui est une fille de Sabro, et quasiment même pas reliée, c'est le houblon qu'on a dans notre line-up qui a le plus de géraniol, donc une huile.
Ouais.
C'est vraiment plus floral. Donc,
je veux dire, moi, je l'ai utilisé 3-4 fois présentement, là. Puis je fais quand même un BBL, fait que c'est quand même représentatif, je pense, sur l'échelle, là. Puis c'est débile comme arôme que ça sort.
Ouais, c'est un houblon qui est super le fun. Moi, j'ai fait j'ai brassé il y a 3 ans déjà. 2 ans. Une bière avec Indie Ale House à Toronto, puis Sawdust City. Deux brasseries en Ontario. Puis on a fait un American Pale Ale, c'était 100% HBC 692, qui est Talus. 5% d'alcool, ça avait sorti. Là. Incroyable.
Mais c'est quand même drôle, parce que quand il me dit ça, moi, je me rappelle quand tu venais, tu me posais des questions, puis tu brassais chez toi, puis là, c'est rendu qu'il brasse avec du monde à travers le Canada au complet. T'sais, il connaît toutes les microbrasseries.
On a même fait, sans vouloir me vanter, l'année dernière, un des derniers voyages que j'ai fait avant la pandémie,
ouais,
c'était en Californie, l'année dernière en janvier à San Diego. Puis on a brassé avec le blend Pink Boots de l'année dernière dans une brasserie à San Diego, Society, qui ont fait une bière pour la journée de la femme au mois de mars. Puis,
qu'on est présentement aujourd'hui.
Ben oui, c'est la journée de la femme, aujourd'hui 8 mars. Bonjour à toutes les femmes qui nous écoutent. Mon hobby, c'était... Moi, j'étais un beer geek à la base.
Ouais.
Un gars qui aimait brasser de la bière, qui aimait prendre une bière. Puis là, ben, veux pas...
C'est rendu ta job.
Là, c'est rendu ma job. Puis ben, moi, je suis le gars le plus heureux du monde.
Quand t'as commencé à brasser, j'imagine que tu voulais aller voir les micros, parler aux brasseurs, avoir des trucs, des petites astuces, tu sais, de chacun. Puis là, on parle au Québec, là. Tu sais, on parle même pas à travers le Canada ou peu importe, là. Tu sais, moi, je vais aller en Ontario, je sais pertinemment que personne ne connaît Fitz le brasseur, là. En tout cas, à moins qu'il parle un peu français, là, mais...
Fitz the brewer?
Non, il aime ça de dire le brasseur.
Le brasseur.
Le brasseur.
Mais moi, ce qui me fait rire, petite parenthèse encore, c'est que mes collègues de travail à Yakima, quand souvent, eux autres, ils voyaient brasserie, tu sais, puis... Mais une de mes collègues, elle disait brassière.
Brassière?
J'ai dit brassière, c'est pas du tout la même chose.
Au Québec, c'est pas la même chose, non, à brassière.
Brassière, c'est it's a bra.
T'as parlé de quelque chose tantôt.
Simcoe.
Oui, c'est ça, exactement. Simcoe, brand de v'là 20 ans. Pourquoi je peux pas en faire pousser dans mon jardin?
Ah, voilà.
Je veux en faire pousser dans mon jardin du Simcoe ou du Citra. Le Citra fait combien de temps qu'il existe?
Le Citra, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années.
Fait qu'il me reste 5 ans avant de pouvoir faire pousser dans mon
jardin.
Non,
ça arrivera pas. Vous n'aurez pas du citron québécois non plus. Puis du citron ontarien. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des brevets sur les houblons. Le brevet expire, mais pas le trademark.
Ouais, mais tu me dis que ton plus gros compétiteur a le même brevet que toi.
Ben oui, on a le brevet ensemble, mais ils vont faire la même chose, ils vont garder le brand pour eux autres. C'est que le brevet expire, mais pas le trademark. Donc, Simcoe, par exemple, Simcoe, c'est pas un HBC. Simcoe, c'est Yakima Chief seulement.
Parce que c'était avant que la fusion se fasse.
On fait des... Nous autres, on a une compagnie, Bartas, ils ont leur compagnie, puis nous autres, on a une compagnie qui s'appelle Yakima Chief Ranches. Okay. Les ranches Yakima Chief, c'est notre... La partie dans HBC, c'est ça. Mais on crée des houblons qui sont juste à nous aussi.
OK.
Ils sont comme, par exemple, Atanum, c'est juste un no-brand. Palisade, c'est juste un no-brand. Mais le plus gros, c'est Simcoe, puis qui est très connu.
Oui.
OK. Fait que Simcoe, quelqu'un qui... L'année dernière, Simcoe, ça a fait 20 ans l'année dernière que le, qui a été inventé. Donc, le brevet a expiré.
Oui.
Sauf qu'on est propriétaire du rootstock de
toutes
les...
Puis, t'es propriétaire de toutes les fermes qui font pousser.
Et voilà. Ben pas toutes les fermes, mais tu peux faire partie du programme, mais sauf que ces fermes-là distribueront pas le rootstock parce qu'ils font partie de notre entente. Fait qu'il y a pas des brasseurs amateurs qui vont faire pousser du Simcoe chez eux, ni du Citra, ni du Mosaïque.
Ni du Sabreau, j'imagine.
Non plus, ni du Talus, ni... Même moi, je pourrais pas partir et dire « OK, je me fais pousser du HBC 472 dans ma
Mais
cour,
là, c'est là ma question. Le brevet part à partir du HBC ou à partir
À partir de la première année.
OK, à partir que vous le faites polliniser.
C'est comme là, par exemple, là, HBC 692, là, il doit déjà avoir un moins un 4, 5, 6 ans là, de brevet dessus. Là.
OK, fait avant qu'il y ait un nom, ça prend quelques années, comme tu disais tantôt. Ouais. Fait que là, ça sera pas fait tout de suite avant que... Ça va prendre quand même, même s'il sort le nom whatever, le Cynthia dessus.
Ouais. Cynthia?
Noël. Mais ça va partir à partir du temps qu'il va avoir eu le HBC, le temps du brevet.
Ouais, c'est ça. J'ai déjà eu des brasseurs qui sont venus moi, à Yakima avec moi, puis on était dans les champs, puis ça les fatiguait.
Ouais, mais c'est les racines.
Ben, tu peux pas embarquer ça dans ta valise, là. Tu fais pogner un doigt de tes fesses. c'est assez creux aussi.
Ouais, c'est vrai.
Non, il n'y a rien à faire. C'est super surveillé. Puis malheureusement, pour tout... Heureusement pour moi, malheureusement pour tous les cultivateurs de houblon, il y a des gens, il y a des compagnies qui sont prêtes à vendre leur rootstock puis à la faire pousser ailleurs. C'est comme par exemple...
Le Cascade, c'était un des problèmes.
Ben, Cascade, c'est une variété publique. C'est pas une variété privée.
Ça n'a jamais été privé?
Non. Cascade, c'est
Je
public.
Je pensais que c'était privé.
C'est comme par exemple, Amarillo.
Oui.
C'est le nom de code, eux autres, c'est pas HBC, c'est VG1. VG, c'est Virgil Gamache. Gamache, un autre nom québécois, ferme de Yakima. Eux autres sont les originateurs ou les créateurs, originateurs, c'est pas français, mais créateurs de la marque Amarillo.
OK.
Eux autres ont décidé de vendre l'Amarillo à certaines fermes un peu partout aux États-Unis.
OK.
Et ils en ont même vendu à des fermes en Allemagne. Fait que t'as du Amarillo allemand
vraiment pas.
Qui existe, qui sont capables d'avoir. Puis c'est Virgil Gamache qui ont décidé, eux autres, de vendre leur rootstock à des fermes. Mais c'est pas tout le monde qui sont ouverts à vendre leur rootstock, dont la
Mais
HBC.
Mais vous
n'êtes
pas non plus obligé de le faire.
Ben non, il n'y a personne qui nous oblige. T'sais, nous autres, veux pas, c'est notre...
Fait que le brevet vous garantit un 20 ans sûr.
Ben, c'est aux États-Unis, les brevets sont 20 ans, puis après ça expire.
Puis après ça, ben si vous gardez... vos places de que vous faites pousser vos houblons avec vous, ben, il n'y a pas de chance ça...
On pense pas...
Que ça va disparaître à m'emmener ou ça va... Pas disparaître, mais ça va s'épandre un peu partout.
Non, il y en a qui disent qu'ils ont des... Ils ont eu accès à une certaine... Peut-être un rootstock, tout le kit, mais...
Mais un peu comme tu disais tantôt avec la Cascade... S'ils poussent dans la région de Yakima, qu'ils poussent au Québec, en Ontario, à Colombie-Britannique,
ça sera
plus le même houblon de toute façon. Fait que le goût peut-être va changer nécessairement, puis peut-être assez drastiquement. Là.
Tout à fait. C'est pas, tu vas faire une smash side by side.
Ouais, les deux vont être différents.
Ça va être complètement différent.
Fait que, en réalité, le monde va aimer le citra comme ils sont habitués et non...
Puis même dans nos citras à nous, on va avoir des différences entre celui qui est poussé en Idaho et celui qui est poussé en Oregon.
Fait que ça fait quand même... Puis imagine, là, on est quand même...
Ben oui, on est dans le bon, oui, c'est des États qui sont pas trop loin de l'autre.
Fait que le Québec, que Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis mettons, Amsterdam, l'autre bout des lignes, on est quand même pas mal plus loin, là, qu'est-ce qu'il pourrait donner, là.
Ça va être un petit peu plus compliqué, mais ces différences-là de terroir là, sont incroyablement, incroyablement grandes. Là.
J'espère que vous avez apprécié ce type de podcast-là. J'imagine que vous avez comme 900 questions parce que Luc, c'est un encyclopédie maintenant de houblon. Puis si c'est pas les réponses, ben il sait où les trouver.
Oui, tout à fait. Non, je m'y connais quand même pas mal depuis 3 ans, mais il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Puis j'en apprends tous les jours. On a des formations, tout le kit. On a des mises à jour tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles affaires qui sortent. Je fais comme, waouh.
Mais j'en ai déjà parlé, je sais pas si dans une vidéo ou dans un podcast, mais tu sais. Recule, v'là 20, 25 ans, il y avait beaucoup moins de monde qui brassait, il y avait beaucoup moins de monde qui appréciait la bière en tant que telle. Tu sais, on avait nos Labatt, nos Molson au Québec, puis aux États-Unis, Bud,
et voilà.
Qui était une des plus grosses brasseries, puis qui c'est pas la plus grosse brasserie des États-Unis,
c'est
Bud.
C'est encore une des plus grosses.
Puis ils utilisaient tout le temps les mêmes choses, les mêmes techniques, ça marche, pourquoi changer? Maintenant, en 2021, on a plusieurs microbrasseries à travers les États-Unis, énormément. Au Québec, ça pousse. C'est incroyable.
On va arriver à 300 bientôt. J'ai Ontario, perdu le Ontario, fil. Québec au-dessus de 250, Ontario au-dessus de 300.
Là, on parle des deux provinces les plus proches de nous. Au Vermont, il y a combien de microbrasseries au Vermont?
Il y en a pas mal aussi. Puis toute la côte Est, c'est assez incroyable. Fait que Yakima Chief, c'est une compagnie mondiale. On a un bureau à Hong Kong, on a un représentant en Australie. On est notre équipe de vente en Europe, maintenant, je pense qu'ils sont au-dessus de 20 ou 25.
Fait que c'est plus qu'au Canada.
On travaille là-dessus. La demande mondiale, il y a bien des gens qui disent « Ah, oh, je suis tanné. » Il y a des gens qui disent « Je suis pas sûr que les IPA, ça va durer. Puis... »
Ça va durer.
Première des choses, ça va durer. Puis deuxième des choses, c'est que la demande présentement pour ces houblons-là, le gros de la demande est en Amérique du Nord. Mais ouais. L'Europe sont en train d'embarquer. Puis quand l'Asie va embarquer...
Ça va être incroyable.
Ça va être incroyable. Là, on parle de milliards de personnes, on parle plus de millions.
Je pense que la bière, comme qu'on l'a connue, puis c'est un gros débat, puis ça, je vais faire un autre podcast dessus ce débat-là, parce que je suis pas avec la bonne personne pour débattre de ça. La bière, comme qu'on l'a connue, des Pilsner, des Brown Ale, qu'on va goûter quand la vidéo va être finie, je pense. Mm-hmm. Ces choses-là, c'est des bières qui vont tout le temps rester, je suis d'accord, mais les IPA, les NAIPA font le buzz présentement en Amérique du Nord. On est une population minime pour la grandeur de territoire qu'on a à comparer de l'Europe.
Oui, Europe et Asie.
Et Asie.
Asie. Puis quand on regarde ce que les Asiatiques, brasseurs asiatiques, ce qu'ils achètent, c'est surtout des extraits.
Oui.
Eux autres, c'est surtout des... Ils font encore des lagers, des pilsners à grande échelle.
Comme nous, là, 50
ans. C'est ça. Ou même 20 ans. Puis là, tu vas à Taïwan. On a un représentant à Taïwan. Il y a des petits brewpubs qui poussent un peu partout. Les jeunes s'intéressent aux nouveaux arômes.
Ouais.
Tout ça, ils découvrent des nouvelles bières. Fait que c'est des marchés qui sont émergents. Puis à un moment donné, c'est ça. Là. Moi, ce qui me fait le plus triper dans ma vie souvent, là, c'est de rencontrer quelqu'un qui me dit « j'aime pas la bière ».
Ouais.
Puis là, je fais comme, t'aimes pas la bière? Pourquoi? Ah, oh, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est quoi, dans ton idée, la bière, c'est quoi? C'est comme une Coors Light? C'est comme une Budweiser? Est-ce que t'as
souvent,
déjà vu
ça.
Une bière sûre? T'as-tu déjà bu une bière aux fruits? T'as-tu déjà bu un lambic? T'as-tu déjà bu une IPA?
Tu vas rire, mais mon plus grand gamme de bière que je présentais à une femme ou à quelqu'un qui aimait pas la bière, c'était une stout.
Ah ouais.
Parce qu'il y avait le goût de chocolat, il y avait le goût de caramel, il y avait le goût de... Puis là, maintenant, à plus grand public, c'est translucide. C'est pas translucide, mais ça ressemble à un jus. Quelque chose qu'on est habitué de voir, de consommer depuis qu'on est jeune. Ça goûte tantôt la tangerine, tantôt le tropical, tantôt l'orange, tantôt... Tu sais, c'est une entrée de gamme très, très, très appréciée pour le monde qui aime moins la bière.
C'est ça, puis en plus, la palette de saveurs est incroyable.
Ouais.
Donc, il y en a pour tous les goûts, là.
Oui, exactement. Fait que là-dessus, mon beau Luc d'amour que j'aime tant...
Déjà fini.
Déjà Dieu. Fini.
Ça a passé dans un éclair.
Si vous voulez d'autres podcasts avec mon ami Luc de Yakima Chief, vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Si je suis capable de répondre, ça me fait un grand plaisir. Si jamais vous voulez avoir plus de Luc sur le sujet du houblon, c'est super facile, hein? Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous nous le dites dans les commentaires. Ça va nous faire un grand plaisir de le réinviter. Peut-être que Kev, cette fois-ci, va pouvoir se libérer.
Ben oui, regardons.
Kev était pas là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On a changé Kev pour Luc, mais je pense qu'il a arrêté dans l'autre coin à prendre d'écouter, puis comme vous faites présentement. Puis je pense que Kev va être très heureux d'écouter ce genre de podcast-là. Alors, si jamais ça vous tente, oubliez pas nos concours, les casquettes, les houblons, pour pouvoir goûter des nouvelles sortes d'houblons. Puis si vous êtes vraiment beaucoup en commentaire, là, peut-être qu'on va être capable d'en avoir, hein, Luc?
Un jour, on va travailler.
Un jour. Fait que d'ici là, portez-vous bien. On se dit dans le prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir. Puis, ben, moi, je pense que j'ai le goût de te réinviter, même si le monde te le demande pas. Mais d'après moi...
Envoyez vos questions à Fitz, puis Fitz va me les envoyer.
Ah, c'est sûr.
Si on voit qu'il y en a trois, on prendra un autre heure.
Puis si jamais vous voyez Luc dans un festival, ben, allez lui parler. Il est vraiment pas intimidant. Il fait tout le temps plaisir de parler au monde, puis d'expliquer. Puis s'il connaît pas les réponses, mais d'être tout de suite, tu sais où aller chercher tes réponses.
Pas pire.
Ciao tout le monde.
Salut.